Au cours du dernier cours, comme on pourrait dire, j'ai commencé à parler des implications du modularisme pour les théories anthropologiques. Et d'une certaine manière, étant donné que ce qui a dominé en anthropologie est ce que j'ai appelé le diffusionnisme, et ce qui domine en anthropologie est ce que j'ai appelé le diffusionnisme, et ce qu'on pourrait aussi dire appeler une version forte du diffusionnisme, dans le sens que dans l'enthousiasme qui suit de la négation de l'évolutionnisme, le sujet même de l'anthropologie change. Ce n'est plus une étude de la nature de l'homme, mais un peu comme le dirait Geertz, des intervalles entre les hommes, où se trouvent la culture et la société. Donc c'est ça qu'on étudie. On n'étudie plus l'homme comme, et sa nature, qui disparaît comme sujet de l'anthropologie. Mais l'effet du modularisme, l'effet de réintroduire la signification de l'architecture du cerveau humain, fait que l'attention de la discipline anthropologique se réoriente vers la nature humaine. On ne peut plus oublier que ce qu'on étudie, ce sont des êtres humains qui ont un cerveau particulier, le produit d'une évolution particulière. Donc, la réintroduction du modularisme, d'une certaine manière, change tout sur la nature philosophique de ce qu'est l'anthropologie. Ça ramène l'anthropologie au sens original du mot, l'étude de l'humain, et ça apparemment éloigne de la redéfinition qui avait suivi de ce que j'ai appelé d'une manière extrêmement large le diffusionnisme. Donc, si ça change tout, par contre, ça n'est pas très clair exactement ce que ça change. Et c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui. On pourrait imaginer, si vous voulez, une espèce de réaction naïve à ce qui est tout de même une découverte, la découverte que le nouveau-né a déjà énormément de connaissances, des connaissances sur la physique, sur la biologie, sur la psychologie, sur les nombres, sur ce qu'est un être animé à l'opposé d'un être non animé. Le nouveau-né est né avec tout cela, mais qu'est-ce que cela veut dire pour l'anthropologie? La première réaction serait de dire que donc, tous les humains sont pareils et toutes leurs connaissances sont pareilles. Après tout, si Homo sapiens sapiens a émergé il y a à peu près 200 000 ans, et que peut-être la date importante est il y a 50 000 ans parce qu'il y a eu une espèce de goulot dans la population humaine qui a fait qu'il n'y a pas vraiment eu de variation. La population est redevenue très très petite il y a 50 000 ans et que donc tous les humains sont probablement des descendants de très très peu d'individus il y a 50 000 ans. Il n'y a pas vraiment de place pour une variation humaine. Que donc tous les humains fondamentalement sont nés avec le même cerveau qui contient des informations spécifiques et que donc si l'anthropologie s'est amusée à souligner la variation culturelle. Elle a fait attention à quelque chose qui, en fin de compte, est un détail comparé au fait beaucoup plus fondamental de l'unité psychique humaine. Et pour une bonne raison, que 50 000 ans, c'est vraiment pas long dans l'histoire de l'évolution. Ça ne donne pas vraiment assez de temps pour une variation génétique profonde. L'autre possibilité, d'ailleurs c'est celle que craignent les anthropologues sociaux et culturels, serait que, étant donné, si on prend en compte la modularité, la seule manière d'expliquer la variation culturelle serait de lui donner une origine génétique qui voudrait dire que les humains sont divisés dans des espèces, dans différentes races qui sont presque des espèces différentes. Donc ils craignent vaguement que dès qu'on commence à parler de l'inné, cela mène très rapidement à une espèce de racisme. Mais en fin de compte, on ne peut penser cela que dans une ignorance totale de la rapidité des processus de l'évolution. Donc, la première réaction, une réaction naïve mais qui paraîtrait évidente, c'est qu'en fin de compte, les humains sont tous pareils. Les variations culturelles sont une espèce de croûte superficielle. Et c'est bien le genre de position que nous retrouvons parmi les auteurs qui sont souvent issus des sciences biologiques, qui ont été nommés ou qui se sont nommés les sociobiologistes. Pour eux, prenons l'exemple de la parenté, parce que la parenté est particulièrement importante dans leur théorie. Tous les humains ont le même système de parenté. Ils reconnaissent la parenté plus ou moins comme elle est en termes de distance génétique. Et les variations culturelles qui ont été le sujet, après tout, de ce qu'a étudié beaucoup d'anthropologues depuis le commencement de la discipline, sont une espèce de superficie que vraiment que les gens utilisent pour se faire des illusions. Et d'ailleurs, avec ces illusions, ils ont pris à leur jeu les anthropologues. Mais que vraiment, tout est pareil. Vous verrez, c'est un peu où nous voyons ce genre d'attitude. Par exemple, dans les travaux de Mark Hauser, qui a fait une série de conférences ici la semaine dernière, qui, parlant de la morale, prend une attitude que nous retrouvons assez souvent, qui est à dire que les humains ont une morale instinctive, et que les systèmes de morale que nous retrouvons de par le monde sont des espèces de légitimation d'une morale qu'ils ont déjà, étant donné qu'ils sont des êtres humains, mais qui en rien constitue la morale qui permet de faire des jugements ou d'agir d'une manière ou d'une autre. Donc, la première réaction à la réalisation de l'importance du modèle modulaire est que les humains, que la culture humaine serait quelque chose à deux niveaux, un niveau explicite, mais sans importance, et à un niveau implicite qui serait gouverné directement des gènes que nous avons hérité en tant qu'espèce humaine. Mais dès que l'on dit ça, il est assez évident que ce genre de proposition est peu probable. Si nous reprenons les deux exemples que j'ai utilisés, la parenté et la morale, il est évident que même pour exactement le genre de choses qui intéressent les sociobiologistes, les différentes règles de parenté ont une influence sur les phénomènes qui les intéressent. Par exemple, les règles de parenté que nous retrouvons dans les pays andins mènent à une fertilité extrêmement basse, tandis que les règles de parenté que nous retrouvons dans certaines parties de l'Afrique mènent à une fertilité très élevée. Donc, on ne peut pas, même si on prend leur perspective, qui est entièrement extérieure à la culture, on ne peut pas oublier les effets biologiques, et donc d'importance pour la théorie de l'évolution, des règles de parenté. Et en fin de compte, on ne trouve pas dans l'expérience des gens ces deux niveaux d'une manière complètement séparée, d'ailleurs qui ne sont pas du tout reliés et dont la relation n'est même pas pensée. Si nous pensons à la morale, il est évident que les gens agissent à un certain point en termes de la morale qu'ils déclarent. Il y a des grosses différences dans les résultats des actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'il y a une espèce de système moral sous-jacent qui vraiment gouverne les choses et que les idées, les évaluations que font les gens, les idées et les évaluations que les gens font en morale est une espèce de croûte superficielle sans importance. Et il y a deux autres raisons pour critiquer cette espèce de représentation sociobiologique de ce qu'impliquerait la modularité. D'abord, il faut bien le dire, souvent on parle comme si on savait quels étaient les éléments innés chez l'homme, comme si on savait quels sont les modules, combien il y en a exactement, mais ce n'est pas du tout le cas. Les experts en cette matière ne sont pas du tout d'accord entre eux. Il y a énormément de variations. Alors, même si on peut être certain que la position très générale du modularisme est exacte, que l'être humain est né avec des connaissances, on ne sait pas vraiment quelles sont ces connaissances. Mais aussi, il y a deux autres problèmes dont j'ai un tout petit peu parlé la semaine dernière. Le premier est que dans l'imagination sociobiologique, il n'y a aucune place pour le développement ontogénique, c'est-à-dire le développement de l'enfant vers l'adulte. Et là, nous avons un très grand problème, parce que dans beaucoup des écrits, par exemple dans les écrits d'un auteur comme Atrin, dont j'avais parlé la semaine dernière, on a l'impression que l'enfant naît avec des connaissances de biologie naïve, qui s'établissent, je ne sais pas trop quand, 2-3 ans, puis que celles-là, une fois établies, restent immobiles pour le reste de la vie. Dès qu'on propose ce genre de choses, ça paraît immédiatement peu probable. Cette espèce d'immobilisme dans ce qui est inné se développe, un peu comme la barbe se développe sur le menton des adolescents, et puis une fois développé, bon, elle est là, et puis c'est tout. Tandis que tout ce que nous savons, et grâce à Piaget en grande partie, et que les connaissances n'arrêtent pas de se développer chez l'enfant, se transformer et même continuent à se développer et à se transformer chez l'adulte. Ça pose un très très grand problème pour une espèce de version modulariste forte. Je prendrai l'exemple des nombres. Il est très clair que, c'est une des régions là les plus claires d'ailleurs, dans ce genre d'études, que les nouveau-nés, et quelque chose qu'on voit assez clairement depuis l'âge, disons, de 8 mois, ont des connaissances mathématiques. Ont des connaissances mathématiques qui sont fort probablement innées. Il est très difficile d'imaginer que les bébés de 2-3 mois obtiennent ces connaissances en interagissant avec le monde, un peu comme l'aurait voulu Piaget. Donc on peut montrer, je crois que j'en avais parlé, qu'un bébé de 8 mois comprend que si on enlève un petit ourson d'une rangée de 3 oursons, il n'en reste que 2. D'accord. C'est très étonnant. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, élimine la position diffusionniste qui est celle implicite dans presque tout ce que nous trouvons dans l'anthropologie. C'est un exemple parmi d'autres des phénomènes qui l'éliminent. Mais nous savons aussi très bien, et dans ce cas-là, grâce à Piaget, qu'il y a toute une série d'autres stades de développement dans la compréhension des mathématiques chez l'enfant. Par exemple, Piaget a très bien démontré que c'est seulement autour de l'âge de 5-6 ans que l'enfant comprend qu'un certain nombre de points rapprochés ou éloignés sont le même nombre. Les enfants ont tendance à dire que quand ils sont tout près, il y en a moins, quand ils sont éloignés, il y en a plus. Ça demande un certain stade. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce développement peut-être utilise les connaissances innées que le nouveau-né manifeste dans les expériences dont j'ai parlé, mais c'est pas très clair comment ce genre de développement et ensuite les mathématiques qu'il apprendra à l'école se relient à ses connaissances innées. Évidemment, si elles se relient, ce sera un processus complexe demandant des interactions sociales et culturelles. Par exemple, nous savons très bien que ce stade de développement dont a parlé Piaget est fortement affecté par le fait que l'enfant a un frère ou une sœur plus âgé avec qui il interagit. Dans d'autres termes, si le jeune enfant peut interagir avec un sibling, je ne sais pas comment on dirait ça, il n'y a pas de mot français, je crois, pour sibling, un sibling plus âgé, quoi ? Un frère ou sœur, plus âgé, avec qui il a une interaction forte qui implique d'une certaine manière ses connaissances mathématiques, le développement dont parle Piaget a lieu beaucoup plus tôt. Nous savons aussi que l'école a un effet sur la compréhension des mathématiques. Donc, comment ces connaissances innées se lie au développement plus avancé de l'enfant n'est pas du tout clair. Et cela a mené un certain nombre de psychologues à critiquer la position modulariste classique en soulignant l'importance du développement ontogénique de l'enfant. Je prends comme exemple, parce que c'est un des plus connus, le livre de Annette Karmiloff Smith, dont le titre déjà dit beaucoup, Beyond Modularity. Deux des livres d'Annette Karmiloff Smith sont traduits en français, mais je ne crois pas que celui-là le soit. Et ce que souligne Annette Karmiloff Smith, c'est particulièrement que même si il y a un élément modulaire, elle ne doute pas que l'enfant est né déjà avec des connaissances innées. Il ne faut pas oublier les transformations qu'elle appelle la réinterprétation des représentations, un processus qui retransforme ce que l'enfant sait déjà, disons, de naissance. D'autres auteurs, par exemple Susan Carey et Elizabeth Spelke, de la même manière, soulignent le phénomène de transformation des connaissances innées. Donc on peut accepter la position, si vous voulez, la position modulariste et sa critique, la transformation qu'elle a pour les théories l'implication radicale qu'elle a pour les théories anthropologiques, et dire, comme je le dis à un instant, oui, mais on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. Et cela est particulièrement vrai quand on prend en compte les travaux sur une des modules particulières qui paraît avoir une importance fondamentale, qui a la capacité de transformer toutes les autres. C'est-à-dire la module de ce qui a été appelé la théorie de l'esprit, et une réflexion sur les implications de cette module pour la culture de ce module pour la culture en général, et le sujet d'un autre livre qui, je crois, que celui-là est traduit en français, que je vous recommande beaucoup, et je crois que je l'ai, par Michael Tomasello, qui utilise beaucoup les idées, d'ailleurs, d'Annette Karmiloff Smith, pour souligner la signification de ce module pour notre compréhension du joint entre la culture, le développement ontogénique et l'inné chez l'être humain. Précisément ce que, si vous vous rappelez, demandait de ses voeux Vygotsky. Et les auteurs qui suivent dans sa lignée, comme Michael Cole, Barbara Rogoff, etc. Alors, ce qui rend cette module particulièrement intéressante et qui fait que c'est d'une certaine manière une charnière pour notre compréhension des implications anthropologiques des découvertes en sciences cognitives, c'est que cette module semble unique aux humains. Et ne pas exister, ou ne pas exister dans la même forme, chez même des êtres aussi proches de nous que les chimpanzés. On peut montrer ça d'une manière extrêmement simple, d'ailleurs, et là je suis Michael Tomasello, en vous montrant cette photo. Cette photo que j'ai volée sur le web, et j'espère que je ne rencontrerai jamais cette dame ou ce bébé, parce que probablement il serait très peu content de se voir apparaître ici. Cette photo montre un bébé qui indique à sa mère un autre objet éloigné. Donc, ce que nous avons, c'est pas simplement une indication pour dire je voudrais ça, ça les chimpanzés le font, exactement de la même manière que le bébé, mais c'est une indication pour communiquer, pour partager l'attention entre la mère et l'enfant à propos d'un autre sujet. Donc d'établir une communication entre la mère et l'enfant, quelque chose que l'enfant fait à peu près entre l'âge de 9 mois. Michael Tomasello et d'autres chercheurs ont parlé de la révolution de l'âge de 9 mois. C'est une révolution particulièrement intéressante parce que c'est à ce moment-là qu'ils disent que c'est à ce moment-là qu'ils voient l'établissement d'une compréhension d'intentionnalité mutuelle qui permet la communication et que c'est aussi le moment où vraiment il y a une démarcation claire entre les humains et les chimpanzés. Et cette capacité qui a l'air d'être modulaire, mais je ne vais pas trop passer mon temps à savoir ce qui est modulaire ou ce qui ne l'est pas, parce que là nous entrerons encore dans des régions où les disputes sont souvent peu fructueuses. Nous voyons cette compréhension de l'esprit d'autrui, car c'est en fin de compte ce que nous avons ici, se développer au fur et à mesure du développement de l'enfant et arriver à ce stade particulièrement marqué dont j'ai parlé dans ma leçon inaugurale, que nous reconnaissons à travers l'expérience de la tâche de des fausses croyances, qui implique très très clairement qu'à l'âge de 3 ans et demi à peu près, c'est très intéressant que tous ces développements ont lieu presque au même moment, pas tout à fait, il y a des variations, mais presque au même moment dans toutes les cultures, l'enfant se développe de la même manière, que l'enfant, la tâche des fausses croyances, qui comme vous en souvenez peut-être, je crois que j'ai repris l'expérience, attendez, non, je ne suis pas là, permettez-moi de vous rappeler ce que l'expérience démontre. Elle démontre qu'un enfant qui passe la tâche des fausses croyances comprendra que si une personne ne sait pas que dans un paquet de Smarties, quelque chose que l'enfant connaît bien, on a substituer des crayons pour des Smarties, le très jeune enfant ne comprendra pas qu'une personne qui n'a pas vu la substitution ne saura pas que dans la boîte de Smarties il y a des crayons, tandis que ne saura pas et croira qu'il y a des Smarties, tandis que le plus vieil enfant comprend que quand on voit une boîte de Smarties, on s'attend à qu'il y ait des Smarties dedans, même s'il y a des crayons, tandis que le très jeune enfant croira que la personne qui voit la boîte de Smarties saura qu'il y aura des crayons dedans. Ce qui veut dire que c'est seulement vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, que l'enfant comprend d'une manière complexe que les autres agissent non en termes du monde tel qu'il est, mais en termes de leur croyance du monde. Ce qui leur permet naturellement d'ajuster de la manière dont nous le faisons tous, notre comportement envers autrui, en termes d'une théorie de l'esprit, si vous voulez, une théorie que les gens ont des croyances, qu'ils agissent en termes de ces croyances, et donc on n'agit plus en termes du monde comme il est, que donc vivre en société, c'est interagir avec des gens comme ayant un esprit, compris d'ailleurs comme étant différent d'une réalité physique et ayant des propriétés telles des croyances et des désirs. Donc, Thomsell souligne le développement de cette théorie de l'esprit basée sur une module qui paraît être unique aux humains et partagée par tous, à part les autistes qui paraissent malheureusement manquer de cette capacité. Le fait que cette capacité peut être là ou manquer montre bien, d'une certaine manière, que nous avons affaire à quelque chose d'inné, quelque chose qui nous rend humains, dans le sens normal. Je parle de l'autisme d'une manière extrêmement simple, mais d'une certaine manière, ce que je dis n'est pas problématique. Mais ce qui est particulièrement important pour cette capacité, c'est que, comme elle nous permet de comprendre l'esprit d'autrui, elle nous permet de communiquer avec autrui d'une manière beaucoup plus fondamentale. Car après tout, qu'est-ce que c'est que la communication entre différents êtres que de pouvoir imaginer l'esprit de la personne avec qui nous sommes en relation, car après tout, si nous utilisons le langage qui est probablement l'exemple le plus simple, quand je vous parle, il n'y a rien d'autre que des ondes physiques qui naturellement n'ont aucun sens, mais elles ont un sens pour vous, je l'espère, parce qu'elles vous permettent, elles peuvent être une indication, un petit outil qui vous permet d'imaginer ce qu'il y a dans mon esprit. Ça n'est pas dans les ondes physiques, comme toute une série de théories sémantiques l'ont souligné, que le sens peut exister. C'est dans le fait que vous avez la capacité d'imaginer mon esprit grâce à ce phénomène physique. Donc, d'une certaine manière, la présence même de cette capacité, de cette théorie de l'esprit, est ce qui rend le phénomène culturel possible. Et ce qui fait que nous pouvons communiquer des informations extrêmement complexes, que nous pouvons se les passer d'une personne à l'autre, et ensuite de les mettre ensemble, de les transformer, le genre de phénomène qui a toujours intéressé ce que nous appelons la culture, ce qui est fort bien décrit d'ailleurs par Lévi-Strauss quand il parle du processus culturel, une question qui est à un certain point une histoire de communication. Alors si nous pensons à ce que ça veut dire, nous revenons d'une certaine manière à une évidence, que ce qui distingue les humains des autres animaux, le point souligné par les diffusionnistes, c'est que nous sommes créés précisément par ces messages qui passent de personne en personne, que nous pouvons recevoir ces messages et les émettre parce que nous avons cet aspect de notre cerveau qui nous permet d'imaginer l'esprit d'autrui, et que donc nous sommes aussi, que nous sommes comme le dirait n'importe quel anthropologue, créé par notre position dans ce maelstrom de messages qui est l'histoire humaine. Mais alors, nous voyons que donc ce module particulier a l'effet de changer tous les autres. De changer tous les autres simplement parce que il ajoute des éléments qui viennent de l'extérieur, qui d'une certaine manière ont à se combiner avec les connaissances innées qui sont en processus de transformation. Et nous pouvons aller un peu plus loin. Nous pouvons aller un peu plus loin parce que non seulement le module de la théorie de l'esprit nous permet d'être transformés par des éléments qui ne nous sont pas venus directement de notre patrimoine génétique ou simplement de l'environnement avec le monde tel qu'il l'est, mais qui d'une certaine manière nous transforme en relation avec les autres personnes avec qui nous avons des relations sociales. Parce que si l'on pense à ce qui se passe quand les communications culturelles ont lieu grâce au fait que nous possédons ce module de théorie de l'esprit, c'est que les gens avec qui nous avons une relation nous transforment, nous changent en relation avec eux-mêmes. Qu'il y a un certain sens où l'on pourrait dire que leur esprit pénètre le nôtre. C'est d'ailleurs ce que a souligné des auteurs tels que Edward Hutchins, qui parle de cognition distribuée. Parce que ce qu'il veut dire par ce terme, c'est que la cognition que nous avons n'est pas simplement dans notre tête, mais elle vient des têtes des autres, et que d'une certaine manière, le cerveau humain dépasse les frontières du crâne. Je répète exactement ce qu'il dit. Et d'une certaine manière, c'est parfaitement vrai, et c'est parfaitement vrai d'une manière totalement matérielle. Ce n'est pas une métaphore. Parce que si je vous dis quelque chose et que vous vous en souvenez, cela veut dire que j'ai transformé la biologie de votre cerveau. J'ai réorganisé d'une manière qu'on comprend très mal, mais qu'on comprend un peu, les neurones à l'intérieur de votre tête. Donc, en vous parlant et en espérant que je communique, je suis en train de transformer l'organisation cellulaire de votre corps. Donc, ce n'est pas simplement, si vous voulez, une métaphore qu'utilisait Hutchins. Et les choses vont plus loin. C'est pas seulement que je suis en train de mettre un contenu dans votre tête, mais c'est que l'architecture même de votre cerveau est transformée par les contenus. Qui vous sont transmis. Nous ne savons pas à quel point le cerveau est transformable, change. Il est très clair qu'il change d'architecture en relation avec les conditions de vie dans laquelle nous vivons. Mais à un certain point, dans certaines limites, pour certains genres d'activités, mais le fait que cela est possible est extrêmement important, la manière dont nous pensons la relation de la culture avec la cognition. Je peux vous donner un exemple, un des rares exemples où cela a été étudié en détail, un exemple assez amusant, qui est basé sur une étude des chauffeurs de taxi londoniens, que peut-être certains de vous connaissaient déjà, qui montre que les chauffeurs de taxi ont besoin d'utiliser leur capacité de cognition de l'espace d'une manière extrêmement complexe continuellement, et on peut montrer que leur cerveau, que les parties du cerveau dédicacées à la cognition de l'espace sont plus développées chez eux. Et non seulement ça, mais que quand ils arrêtent d'être des chauffeurs de taxi, ça disparaît. Donc, il faut arrêter de penser au cerveau comme quelque chose de stable. Il ne faut pas, par contre, penser comme quelque chose de complètement fluide et d'instable, mais quelque chose qui peut se transformer et qui se transforme, si vous le pensez, en termes de la culture dans laquelle nous nous trouvons, les relations sociales dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, ça n'est pas la peine d'aller vers la métaphore, comme le fait Ed Hutchins quand il parle de la cognition distribuée. À mon avis, c'est une très grosse erreur, parce que nous parlons de quelque chose absolument physique, que d'ailleurs les avances incroyables de la neurologie nous permettront de voir de plus en plus d'une manière totalement naturelle et physique, la métaphore est malheureuse, à mon avis, mais elle indique tout de même quelque chose qui est absolument, qui est extrêmement intéressant. Donc, quand nous voulons penser le cerveau en relation avec la culture et la société, les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées, malheureusement, qu'elles le sont dans le simple modèle socio-biologique comme je vous disais, est la réaction première à la découverte du fort rôle de l'inné chez l'être humain. J'ai essayé de faire une petite illustration de comment nous devons penser cela. J'ai emprunté du web une image d'un cerveau qui m'a particulièrement plu parce qu'il a un peu l'air d'un nuage. Et le fait qu'il a l'air d'un nuage, la raison pour laquelle le fait qu'il a l'air d'un nuage m'a plu, c'est parce qu'il montre que nous n'avons pas affaire à une structure nécessairement stable. Nous avons affaire à une structure qui est continuellement changeante. Mais à un certain point, dans certaines régions, plus que d'autres. Et changeante pour toute une série de raisons. Je crois qu'il nous faut accepter que le nouveau-né humain est né avec un potentiel de connaissance extrêmement complexe. Et d'ailleurs, cela, nous le partageons avec tous les autres animaux. Mais que ce potentiel pour des connaissances, ces modules que nous pourrions appeler des outils pour apprendre le monde d'une certaine manière, ne sont qu'un commencement pour le développement du cerveau, qui pour les autres animaux sera principalement, mais pas uniquement, affecté naturellement par le développement physiologique de l'individu, mais aussi les conditions de l'environnement dans lequel ce développement aura lieu. Donc, si vous voyez, nous devons penser ce cerveau comme en transformation à cause du développement ontogénique. Mais aussi transformé, qui d'ailleurs peut mener à un développement particulier d'une partie du cerveau plus que d'autres, etc. Mais aussi causé par les communications qu'il recevra d'autrui, la position qu'il se trouve dans cette immense conversation qui est l'histoire de l'humanité, l'histoire en général, qui est un phénomène, comme je vous le rappelle, si vous rappelez-vous l'illustration que j'avais fait entre le Durer et le... C'est Durer ou Holbein, je ne sais plus. Durer, je crois, et le lièvre. Donc, un être pris dans une histoire qui va infiniment plus vite que l'histoire génétique, qui donc est en transformation et par les contenus qu'il reçoit et qu'il combine et qu'il transforme, et par le fait que ces contenus, à un certain point, transforment son architecture. Et aussi, ce qui est important, c'est que ces transformations, cette fluidité, est causée par le monde dans lequel l'individu habite. Donc, cette fluidité est causée par ses communications, mais évidemment par la nature de la société dans laquelle il se trouve, parce que c'est la nature de la société dans laquelle il se trouve qui organise ses communications, évidemment, et par le monde dans lequel il se trouve, qui est, dans le cas des humains, un monde construit, un monde, parce que si ce n'est que par les objets qui sont autour de nous, les maisons dans lesquelles nous vivons, les transformations que nous faisons à la nature en mettant des chemins et tout ça, qui, d'une certaine manière, est un système de communication passant par des intermédiaires qui font cette transformation de ce cerveau. Et qui font que ce cerveau s'ajuste, ou d'une certaine manière, s'ajuste, c'est peut-être un mot trop simple, mais se met en relation avec les autres cerveaux avec lesquels il est en contact. Je crois que vous voyez que avec ce genre de modèle, nous sommes très 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 loin. Nous sommes très très loin d'une idée que les humains sont formés par des connaissances qui sont venues directement des connaissances innées. Mais d'une certaine manière, nous sommes aussi extrêmement loin de la position diffusionniste qui, ayant poussé tellement le raisonnement « nous sommes formés par notre position dans la culture, dans les communications, dans la position que nous occupons dans l'histoire, que nous pouvons oublier entièrement le matériel que nous avons là. Ça a peut-être l'air d'un nuage, mais ce n'est pas un nuage. Donc, nous avons là, je crois, un modèle qui nous explique et ce que c'est que d'être un être humain dans une société et dans une culture, et qui nous explique à quel point est complexe la relation entre les transformations qui ont lieu, les deux grandes transformations étant les transformations ontogénétiques et culturelles et historiques, qui créent, mais qui ne créent pas les individus. C'est plus ou moins là que je voulais arriver dans cette partie de ces cours, car je voudrais un peu prendre un tout petit peu de recul pour finir. Dans ces premiers cours, j'ai essayé de suivre avec vous, de voir avec vous les implications cognitives et psychologiques des théories anthropologiques qui ont eu cours. J'ai fait ça d'une manière très rapide. Tiens, d'ailleurs, il y en a une dont je n'ai pas parlé. C'est Durkheim. Je voulais reparler de Durkheim dont j'avais parlé, si vous vous souvenez, dans mon deuxième cours. Parce que d'une certaine manière, quand je vous parlais de l'interpénétration des cerveaux, nous arrivons très proches de la formulation de Durkheim, aussi très loin. Parce que le phénomène de transformation dont je vous ai parlé souligne bien à quel point il y avait du vrai quand il disait que c'était la société qui crée les individus. Parce que j'ai essayé de vous montrer comment le processus de communication, véritablement et matériellement, crée les individus, transforme leur cerveau, que donc de prendre comme point de départ un humain, un point c'est tout, est une erreur. Mais je crois que nous sommes aussi extrêmement loin de Durkheim et de son mysticisme, parce que, ayant réalisé ce que je viens d'essayer de vous démontrer, il a été mené vers un idéalisme bizarre et fantastique, où nous pouvions totalement oublier les humains et penser que c'était la société ou la culture qui était le vrai sujet de l'anthropologie. Donc, excusez-moi pour cette parenthèse, et je reviens à ce que je voulais dire en conclusion. Ces premiers cours, j'ai essayé de montrer comment les théories anthropologiques et même les discussions, les dialogues, les controverses théoriques en anthropologie ont fait avancer notre compréhension de ce que c'est qu'un être humain. Ils l'ont fait avancer d'une manière assez intéressante en termes psychologiques. Presque toutes ces discussions sont des discussions psychologiques. J'ai aussi essayé de vous montrer que ces discussions sont enrichies quand nous prenons ce qui s'est passé en psychologie et dans les sciences cognitives aussi, que nous les mettons ensemble, le genre de choses qui est rarement fait, pour vous montrer que nous avançons vers un modèle qui est extrêmement complexe, compliqué, mais qui est, à mon avis, beaucoup plus avancé que nos points de départ. En tout cas, qui peut l'être. Malheureusement, je crois que la plupart des anthropologues sont toujours coincés loin de ce genre d'idées, dans un espèce de diffusionnisme simple. Mais Je crois que précisément parce que nous avons compliqué tellement les choses, qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin en utilisant cette espèce de tactique où ce que nous examinons, les choses du bas allant vers le haut. J'ai essayé de comprendre les éléments constitutifs de l'être humain en essayant d'une manière schématique. Et je crois qu'on peut aller jusqu'à un certain point, mais quand on arrive là, on n'a plus grand-chose à dire. On est très loin des réalités ethnographiques que les anthropologues ont l'habitude d'avoir à gérer. Nous sommes très très loin des phénomènes que nous rencontrons si vous allez, ici les Moulineaux à Alger ou choisissez votre endroit. ça n'a pas d'importance. Et je ne crois pas que nous pouvons nous rapprocher plus que nous l'avons fait. Mais on peut utiliser une autre technique qui est l'inverse de celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. C'est de considérer les données anthropologiques et ethnographiques comme nous les avons à la lumière du schéma théorique que j'ai essayé de développer jusqu'à maintenant. Donc, ne pas commencer vers le bas et aller vers le haut, mais commencer vers le haut et aller vers le bas. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a essayé de faire, si vous vous rappelez, la semaine dernière, Anne-Christine Taylor, quand elle discutait de comment, quelles pourraient être les implications psychologiques de phénomènes ethnographiques tels que le perspectivisme souvent décrit en Amazonie. C'est ce genre de technique pour étudier le même sujet qui va être le contenu des cours qui vont suivre après l'intervalle de Pâques. Merci.